mais ça fait très très mal. C'est épuisant. Donc maintenant, si vous ne me répondez pas, on fait 10 burpees. Ça va être radical. Comment allez-vous? Ah, c'est bon ça. Vous imaginez ce qu'il faut faire? Putain, j'ai eu peur. La hantise quand tu utilises une tablette, c'est de dire mince, ici ça plante. T'as pas ton message. Donc, on va aborder une nouvelle thématique. Cette thématique, je l'avais vraiment sur mon cœur. T'as vu ça? Yeah, vous auriez pu le serrer quand même. Hein. Cette thématique, je l'ai sur mon cœur depuis un petit moment. Mais d'abord, j'aimerais juste le visser, ce truc. Tu peux m'aider, mon sauveur? Je suis pas chanteur, moi, je ne sais pas comment ça marche, les trucs. Mais si. Une fois ça va, pas deux. J'ai pris le cassé. Bon, du coup, je vais le virer. Excusez-moi. Voilà. On va commencer une nouvelle thématique que j'ai eue sur mon cœur depuis un petit moment. Je voulais aborder la thématique atmosphère. Ça veut tout dire. En même temps, c'est tellement vaste, mais en même temps très très précis. On va partager cette thématique sur janvier. Bon, il reste que maintenant, mais janvier, février, mars, on va ouvrir cette thématique. C'est tellement important de comprendre cette thématique atmosphère parce que je crois réellement que ça peut carrément changer votre vie chrétienne. La première prédication, la première chose que j'aimerais vous partager ce soir, c'est un message qui est très simple, mais tellement profond. Et honnêtement, si vous le captez, ça va honnêtement changer votre foi, ça va changer vos moments où vous avez besoin de voir Dieu agir dans vos vies, ça va changer tellement de choses, honnêtement. J'ai pris longtemps pour comprendre ce message, et des fois, vous savez, c'est les choses les plus simples où on prend vraiment du temps à comprendre, et à quel point ça a eu de l'impact dans ma vie. Atmosphère. Pourquoi atmosphère? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement parce que nous sommes des récipients. Nous sommes tous des récipients. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce qu'on peut faire, imaginer, penser, agit comme un parfum dans nos vies, qui est un récipient et qui parfume autour de nous et qui crée une atmosphère. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu as le micro? Je vais te mettre mal à l'aise pour ceux et celles qui parlent. En fait, tu vis continuellement dans l'atmosphère que tu dégages. Tu vis continuellement dans l'atmosphère que tu dégages. Et ça, c'est quelque chose à comprendre dans notre vie chrétienne, et même ça touche même notre vie, même en règle générale. Mais on est tous, pour la plupart des chrétiens, qui vivent une vie avec Dieu, il faut comprendre cela. Tu vis, tout ce que tu dégages crée une atmosphère, tu respires cela. Et pour donner une image, une illustration un petit peu de cette. Je ne sais pas si je vais la donner, je me suis dit tard, allez, peut-être. Mais je vais la donner, peut-être que ça va vous faire sourire, peut-être pas du tout, on verra si ça fait un flop ou pas. Mais j'ai trouvé une petite illustration, que j'ai une actualité insolite, je me suis dit, il faut absolument que je la raconte parce que j'ai trouvé drôle, surtout l'atmosphère, voilà, je trouvais ça drôle. Fin octobre 2016, le Tokyo Medical University, excusez mon anglais, a été dans l'obligation de publier un rapport à la suite d'un incident survenu dans l'un de ses blocs opératoires au mois d'avril 2016. D'accord? Donc c'est pas si vieux que ça. Et ce qui s'est passé dans cet hôpital, c'est qu'en pleine opération, le pet d'une patiente anesthésiée a provoqué un départ de flamme dans le bloc opératoire. Le contact entre les flatulences et un laser est à l'origine du phénomène qui, voilà, donc quand on se renseigne un petit peu sur Internet, c'est pas des blagues. Et j'ai trouvé ça, cette illustration très drôle, parler d'atmosphère, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais la sortir, je trouvais ça drôle, tu vois, le côté, voilà, elle s'est laissée aller, et puis du coup ça a fait une flamme, voilà. Sur le coup, je trouvais que c'était une bonne idée, je me suis dit bon, peut-être que là, peut-être j'hésite un peu, mais voilà, c'est sorti. Je me suis dit ça va peut-être détendre l'atmosphère. En fait, est-ce que vous connaissez ce genre de personne qui rentre dans une pièce et l'atmosphère change? Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a le sourire, il y a quelque chose de palpable. il y a des gens qui rentrent, ils parlent de Dieu, puis même la foi est communicante. Puis tu sens que l'atmosphère a changé quand ils rentrent dans une pièce. Vous connaissez ce genre de personnes? Juste lever la main pour... Ça va? Vous connaissez? Okay. Il y a même une autre catégorie de personnes où l'atmosphère change, la foi est là, le sourire est là, quand ils quittent la pièce. Vous connaissez ce genre de... Je ne vais pas lever la main. Je ne vais pas lever la main. Parce que c'est ça l'atmosphère. C'est qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu dégages? Et j'aimerais lire avec toi l'histoire d'un homme, enfin de plusieurs hommes, qui ont vécu quelque chose et qui va être le texte de référence pour ce soir par rapport à l'atmosphère. C'est l'histoire de l'apôtre Paul et de Silas, qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Je raconterai l'histoire ensuite, mais je vais juste lire le passage qui nous intéresse. Je vous expliquerai le contexte ensuite. C'est dans Actes chapitre 16, versets 25 à 34. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi allumer vos Bibles. Actes 16, versets 25 à 34. Alors, avant de le lire, je mets juste un petit contexte. Paul et Silas viennent d'être battus, roués de coups. Ils sont en sang et on les jette en prison. D'accord ? C'est OK pour vous, Julie ? Actes 16, chapitre... Versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. En fait, c'est une histoire incroyable. Pour ceux et celles qui sont nouveaux dans la foi, je vous encourage vraiment à lire les évangiles. Puis quand vous avez fini de lire les évangiles, lisez les Actes des Apôtres. Ce sont toutes les apôtres qui ont connu Jésus, qui ont suivi Jésus, puis finalement vivent des choses incroyables. Et on raconte les Actes des apôtres. Et à ce moment-là, je vous mets dans le contexte pour bien expliquer ce qui se passe. L'apôtre Paul essaie d'aller dans plusieurs villes. Et la Bible ne nous dit pas comment, mais le Saint-Esprit empêche l'apôtre Paul et Silas, et probablement Luc qui raconte l'histoire, et Timothée, les empêche d'aller dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. On ne sait pas comment. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul dort un soir et puis fait un rêve. Il voit un Macédonien qui lui parle et qui dit « Au secours, viens nous aider, viens nous aider. » Alors, l'apôtre Paul se réveille et il dit « Ok, en fait, le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller dans plusieurs villes, il faut qu'on parte en Macédoine. » Et ils partent là-bas. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je passe en Macédoine, je pense toujours à une salade de Macédoine. C'est fou, hein, ça m'a traumatisé quand j'étais petit, ma mère me donnait toujours à manger avec de la mayonnaise. Je ne suis pas supporté ce truc. Mais... En tout cas, la Macédoine, ce n'était pas du tout ça. La Macédoine, c'était, c'était le nord de la Grèce, hein, pour que vous puissiez un petit peu vous situer. Donc, on parle de l'apôtre Paul, qui est quand même à Jérusalem. Et donc là, c'est l'autre bout de la terre. Hein, c'est les premiers voyages de l'apôtre Paul. Il part dans le nord de la Grèce, en Macédoine, et il part. Et ce qui va se passer, c'est assez incroyable. Parce qu'ils sont conduits par Dieu. Ils disent, OK, on va en Macédoine, on va aller dans le nord de la Grèce, on y va. Et ils arrivent dans une ville qui s'appelle Philippe. Arrivés à Philippe, ils arrivent dans cette ville qui est quand même, il faut le rappeler, une province romaine, d'accord ? Donc il n'y a aucun juif. Et son premier réflexe, c'est de dire, c'est l'heure de la prière, on va aller au niveau de la rivière, donc automatiquement, s'il y a des juifs, on les trouvera là, tout simplement parce qu'il y avait les ablutions, hein, les rituels pour les juifs. Donc il s'est dit, c'est sûr. Donc du coup, il y va, et à ce moment-là, il rencontre plusieurs femmes, dont Lydie. Lydie qui est marchande de pourpre. Donc elle était quand même assez aisée, cette femme. Et donc du coup, l'apôtre Paul, avec ses disciples, commence à parler de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour ses péchés, que le Messie qu'on attendait, c'est Jésus. Et du coup, la Bible nous raconte que Lydie ouvre son cœur à Jésus et elle donne sa vie à Dieu, elle se fait baptiser. Et Lydie insiste pour que l'apôtre Paul et tous ses disciples viennent dormir chez elle, manger chez elle, voilà, loger, blanchi, nourri. Et l'histoire est incroyable parce que tu te dis, l'apôtre Paul, ses disciples, ils sont convaincus que c'est la volonté de Dieu qu'ils partent en Macédoine, ils y vont, ils arrivent dans une ville qui s'appelle Philippe, les portes s'ouvrent, une nouvelle convertie, ils n'ont jamais entendu parler de qui c'est ce Jésus. Et là, ils sont chez une femme qui est quand même, qui gagne très bien sa vie, puis qui est très très bien, puis ils disent, ah, tu sais quoi, c'est bon de suivre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Du coup, ils sont convaincus que c'est la volonté de Dieu, Dieu répond. Et là, l'histoire nous raconte qu'au fur et à mesure, ils partaient pour prier. Et à ce moment-là, il y a une femme qui est là, qui est complètement possédée. On ne rentrera pas dans les détails de cette histoire, mais l'apôtre Paul chasse le démon dans la vie de cette personne. Et à ce moment-là, la foule se rebelle et puis finalement, les gens l'amènent au tribunal. Et puis l'apôtre Paul et tous ses disciples sont complètement lynchés, battus, ils sont en sang. Parce que la Bible nous racontera le verset qu'on a lu, qu'ensuite on viendra laver les plaies de l'apôtre Paul, et on les jette en prison. Et ils sont dans cette situation. Je veux juste faire une pause par rapport à ce texte, parce qu'ensuite on enchaîne sur le texte. Mais imaginez juste deux secondes des gens qui disent « on va suivre Jésus, Dieu nous envoie là-bas, on y va, parce que Dieu a un plan, Dieu nous a parlé dans un songe, on y va, et ils se font taper, lynchés, ils sont en sang et ils sont jetés dans une prison sans lumière, complètement dans le noir total. Waouh, la volonté de Dieu. Ok. Où est-ce que je veux en venir dans cette histoire? C'est que quelle a été l'attitude de cœur de l'apôtre Paul et de Silas? Bien sûr, c'est une histoire extrême. Ok. Là, on parle quand même d'une autre période de l'histoire, mais quelle a été leur attitude dans cette histoire? La Bible raconte qu'alors qu'ils étaient en sang, alors qu'ils étaient enfermés dans une prison, la Bible dit qu'ils ont commencé à louer et adorer Dieu. Et mon premier point est celui-ci. Une atmosphère d'adoration est le tapis rouge pour que Dieu intervienne en ta faveur. Dit Paul et Silas, priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous savez, il est très facile de cultiver une atmosphère autour de nous de paix, de calme, de foi, quand tout va bien. C'est un peu comme la foi. Vous savez, les gens qui disent « moi j'ai la foi, tu as vécu des difficultés ?» Non, j'en vis pas moi. Mais tu sais quoi, j'ai la foi. Tu sais que tu as la foi uniquement quand tu galères. C'est tout. D'accord ? Quand tout va bien, tu sais pas si tu as la foi. C'est quand tu passes par des moments de difficulté que là, tu vois si tu as la foi. L'atmosphère, c'est la même chose. Quand tout va bien, tu es tranquille, tu n'as croisé personne, donc du coup, tu t'es frité avec personne, tu es bien, tu es chez toi, tu écoutes de la musique. Tu as une atmosphère incroyable autour de toi. Tu dis, ah, si tous les jours, ça pouvait être comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe réellement quand tu es confronté à de la difficulté? Qu'est-ce qui se passe quand tu vis des moments difficiles? Car c'est là où tout se joue. Et l'apôtre Paul et Silas ont été confrontés à quelque chose de difficile, la prison. Et toute proportion gardée dans ce que je vais dire, je veux juste prendre cette image pour savoir comment ce texte peut nous parler aujourd'hui. Vous savez, quand on vit des difficultés, on arrive tous à un moment donné où on peut être dans une prison. Elle peut être une prison mentale, elle peut être une prison émotionnelle, une prison spirituelle même, elle peut être une prison relationnelle, financière. Il y a toutes sortes de prisons où tu te sens comme enfermé, où tu te sens comme bridé, enchaîné. On peut passer dans notre vie, que ce soit dans nos familles, que ce soit, je pourrais citer tellement d'exemples, où on peut se sentir comme emprisonné par une situation qui nous arrive. La question est de savoir quelle est l'atmosphère que tu vas dégager quand tu vas être dans cette prison-là. J'ai regardé dans le dictionnaire le mot prison. Bien sûr, je sais ce que ça veut dire, mais j'ai pris juste la première partie de la définition. Larousse dit « Une prison est un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté. » Je trouve ça très intéressant. Parce que même dans nos vies chrétiennes, dans nos vies normales, même de tous les jours, quand tu vis des difficultés et que tu te sens comme emprisonné, tu es comme privé de ta liberté. privé de quelque chose, de, tu sais que tu pourrais vivre plus, mais tu es comme confronté à quelque chose. Tu es comme privé d'une liberté dans un domaine de ta vie parce que tu es comme en prison. Mais la question que je veux te poser ce soir, c'est quelle est l'atmosphère qui se dégage quand tu es là-dedans? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la remise en question? Tu doutes de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais te dire que l'atmosphère est puissante. L'atmosphère est puissante parce que l'apôtre Paul et Silas, dans la même situation, beaucoup plus grave, ils ont décidé de créer une atmosphère d'adoration. Ils se sont mis à louer, ils se sont mis à adorer. Et quelque chose de surnaturel a pris place. La Bible dit que quand ils se sont mis à louer, les fondations, le texte dit bien, les fondations de la prison furent ébranlées. Et les portes de chaque cellule se sont mises à s'ouvrir. Et je trouve ce texte très très fort. Très très fort. Parce que quand tu comprends la puissance de l'atmosphère qui est autour de toi, tu peux vivre des choses surnaturelles. Quand tu passes par un moment de difficulté, quelle est l'atmosphère que tu dégages? Souvent, quand on vit des choses difficiles, quand on est confronté à quelque chose qui nous emmène comme dans une sorte de prison, la première réflexe des fois que nous on a, c'est de réfléchir, appeler ou autre, alors que notre premier réflexe, ça devrait être de dire quelle est l'atmosphère que je suis en train de dégager autour de moi. Parce que dis-moi l'atmosphère que tu vas dégager et je te dirai si Dieu peut intervenir dans cette atmosphère. Et si tu veux que Dieu vienne ébranler les fondations de la prison dans laquelle tu te trouves, il va falloir créer une atmosphère d'adoration. C'est puissant. Souvent, on peut dire, mais il faut que je prie plus, il faut que je fasse plus, il faut que je lise plus. Parce que tu sais, souvent, quand on vit des difficultés, honnêtement, là, c'est là où on prie plus, c'est là où on lit plus notre Bible. Tu sais, on dit, ah, Dieu me rappelle qu'il faut que je prie, c'est pour ça que je passe par des moments difficiles. Rien du tout. Il faut juste que tu comprennes quelque chose. C'est l'atmosphère. Quelle est l'atmosphère qui se dégage? Vous savez, c'est comme un pressoir. Quand on vit des moments difficiles, comme un pressoir, qu'est-ce qui sort? Quelle est l'huile qui sort? Qu'est-ce qui sort au plus profond de toi? Donc j'ai dit, une prison est un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette liberté, c'est Jésus. Vous savez, je vais vous laisser une phrase ce soir. Si vous voulez noter là, c'est une phrase qui a honnêtement changé ma vie ces derniers temps. Si vous la captez, vous la comprenez, il y a quelque chose qui va basculer. La foi victorieuse, parce que souvent, dans les moments de difficulté, dans les moments où on se trouve comme dans une prison, où on a beau essayer de prier, on a beau essayer de faire des choses pour que Dieu intervienne, et des fois on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? J'aimerais vous dire que la foi victorieuse se repose dans une atmosphère de calme et de confiance. Honnêtement. La foi victorieuse se repose dans une atmosphère de foi et de confiance. Si tu es agité, je ne parle pas de dire je me calme, je me calme, je me calme, je me calme, c'est bon, la foi va agir. Non, non, je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'une attitude de cœur. Tout ça dégage un parfum. Tout cela va dégager quelque chose. Et la foi victorieuse est celle qui se trouve dans cette atmosphère de calme et de confiance. La Bible dit en plus dans Ésaïe 30:15, souvent, si vous êtes depuis des années dans une église, vous connaissez ce verset. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On ne parle pas de force physique, on parle de force spirituelle. Et si tu veux avoir de la force spirituelle, si tu veux avoir une foi victorieuse, il faut que l'atmosphère que tu crées dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes attitudes, soit dans la calme, confiance en Dieu, l'adoration. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Ils vivent des choses difficiles que, honnêtement, on ne sait même pas si nous-mêmes, on pourrait traverser la même chose. Calme, confiance. Ils sont en train de louer et adorer Dieu. Et dans cette atmosphère, boum, le surnaturel de Dieu prend place. Prison s'ouvre. Les fondations de la prison s'ouvrent. Et crois-moi que quand tu passes par des moments de difficulté, et je vous le dis, je l'ai testé à maintes reprises et à maintes reprises, comment des fois les fondations des prisons s'ébranlent. Les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que tu as décidé dans ton cœur de dire, je veille sur mon cœur. Je ne vais pas veiller à, oui, bien sûr, prier plus, se tenir devant Dieu, être attentif, mais dire non, non, je suis dans un moment où je vis une prison. Je suis dans une prison. Elle peut être mentale, relationnelle, spirituelle. Encore une fois, tellement d'exemples qu'on pourrait donner, tellement d'applications. La première des choses sur laquelle tu dois veiller, c'est de dire, ok, quelle atmosphère est en train de dégager? Qu'est-ce que je suis en train de dégager? Quel est le parfum que je dégage? L'inquiétude, c'est pas bon. Je vais régler ça. Je prie même pas pour autre chose. Je prie même pas pour la situation. Je veille sur mon cœur. Ok. Là, je veux dégager le calme, la confiance, l'adoration. Et une fois que cette atmosphère est créée, à ce moment-là, je m'attends à Dieu. Et vous savez quoi? Et c'est là, dans cette atmosphère-là, c'est comme si c'était du gaz qui s'échappe et que juste le Saint-Esprit, c'est juste le briquet, tout part en flot. C'était pour la blague de tout à l'heure de l'histoire. Donc, si tu veux ébranler les fondations de ta prison, il te faudra de la force spirituelle et donc créer une atmosphère de confiance en Dieu. Encore une fois, je le répète, une foi victorieuse se repose dans une atmosphère de calme et de confiance. Je vais donner un exemple très simple. J'ai essayé de trouver une histoire sur laquelle je pouvais raconter, que je pouvais raconter parce que je vis toutes sortes de choses en ce moment, mais je ne peux pas encore raconter parce que ce n'est pas terminé. Je suis dans le calme et la confiance. mais d'abord, j'aimerais raconter deux versets. Il y en a une histoire que j'aimerais vous raconter qui est biblique et l'autre qui est personnelle à ce texte-là. C'est un texte que j'ai déjà prêché à l'église, mais ce n'était pas Génération Clé. J'en ai parlé à certains parce que c'est un texte que Dieu m'a tellement parlé. C'était en janvier. Qui connaît l'histoire, juste pour savoir, qui connaît l'histoire où Jésus est dans la barque avec ses disciples, il y a une tempête et puis Jésus dort dans la barque. Juste lever la main. Ok, ça va. Plus de la moitié. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tempête. Je vais répéter ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Et finalement, il y a une tempête et puis les disciples pensent que le bateau va couler. Ils sont en train avec leur seau, en train d'enlever l'eau. Puis Jésus dort dans la barque. Et les disciples, à un moment donné, ils disent, réveille Jésus. Ils disent, mais Jésus, réveille-toi, quoi. Réveille-toi. On est en train de couler, on va mourir. Et Jésus se réveille. Qu'est-ce qu'il fait? Calme la tempête. Et qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Vous avez manqué de foi. Vous connaissez cette histoire? Écoutez bien. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Si tu ne peux pas dormir dans une tempête comme Jésus, tu ne peux pas calmer une tempête comme Jésus. C'est parce que Jésus pouvait dormir dans la tempête qu'il a pu calmer la tempête. Les disciples étaient comme agités. Et Jésus reproche aux disciples leur manque de foi, alors qu'ils sont en train de couler. Mais il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Donc c'est pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Si tu peux dormir dans une tempête, tu peux la calmer. Là, c'était une tempête physique, mais je parle même d'une tempête dans ta vie. Des choses difficiles que tu peux vivre, des choses qui tombent dessus, des événements. Quelle est l'atmosphère que tu crées? Je suis sûr que quand ils ont dû regarder Jésus, ils ont dû dire, même le texte, on peut le lire entre les lignes. Ils disent, mais Jésus, comme s'il n'était pas là, quoi. Il dort dans une tempête, quoi. Calme, tranquille. Arrête-toi, c'est fini, c'est calme. Donc s'il y a une leçon que j'aimerais vous laisser avant de partir sur le deuxième point, c'est comprenez ce texte. La première des choses dans laquelle vous vivez, première des choses, quand vous vivez quelque chose, une prison, si tu veux ébranler les fondations de ta prison pour que les portes s'ouvrent et que tu sors de cette prison, calme, confiance, crée une atmosphère où Dieu peut agir dedans. Amen. L'histoire que j'ai pu donner, c'est, que je voulais donner aussi, une histoire pas très ancienne, c'est dernièrement, j'ai vendu ma maison et on s'est dit, ouais, tiens, on va acheter une nouvelle maison, voilà, avec la plus-value, hop, on va acheter une nouvelle maison. Puis on avait visité, on avait fait une proposition d'achat, puis finalement, j'ai épargné des tailles, mais on a senti que ce n'était pas la direction de Dieu. On expliquera la prochaine fois sur ce sujet-là. Mais à un moment donné, on a senti que Dieu nous demandait de venir sur Montpellier et de prendre une maison à côté de l'église. Donc on s'est dit, ok, bon, écoute, on va quitter le Gard. On va venir à côté de l'église. Et on a commencé à chercher, mais ce qui était difficile, et c'est là que je me suis retrouvé dans la même situation que tous les Montpelliérains qui cherchent une location, c'est galère. C'est galère. Surtout que Marion venait de quitter son... Ben, venait de changer d'emploi, et c'était à ce moment-là, c'était cet été, hein, tu as travaillé à l'église en tant qu'assistante de direction avec un poste d'auto-entrepreneur qui ne te permet pas d'être en location. C'est quand même compliqué. Surtout qu'il faut 3 ans d'auto-entrepreneur, elle avait 3 mois. Donc autant te dire que aucune agence immobilière acceptait notre dossier. Aucune. Aucune. En disant, écoutez, vous avez que vous comme salaire, il faut 3 fois le salaire, j'ai 4 enfants, j'ai 4 enfants. C'est une blague entre. J'ai 3 enfants, il n'y a pas de quatrième, d'accord? Il n'y a pas de quatrième. J'ai 3 enfants, donc il faut quand même une maison assez grande et c'était compliqué. Donc tous les agences me disaient, écoutez, votre dossier n'est pas recevable, pas recevable, pas recevable. Puis c'était compliqué, quoi. Et donc du coup, on commençait à flipper parce qu'on devait rendre les clés le 13, en fait, on devait faire l'acte de vente. On devait rendre les clés le 13 et début décembre, on ne savait pas du tout où on allait aller, on commençait à faire les cartons, on ne savait pas. Et avec 3 enfants, on flippait un peu. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? C'est toi qui m'as dit de venir sur Montpellier. Et on savait que notre maison, petite parenthèse, Dieu allait nous la donner, on était convaincus pour que notre maison soit ouverte l'été à tous les jeunes de Génération Clé. Et on s'est dit donc, Seigneur, dans ce cas-là, si c'est ça, il faut nous faire un jardin pour le barbecue, pour l'été, ça va être sympa et tout, après les réunions, après le culte et tout. Et comme c'est la signature de Dieu, Dieu agit toujours à la dernière minute. Et c'est là où on a veillé sur notre cœur. On s'est dit, Seigneur, tu sais quoi? Aucune agence n'accepte notre dossier, mais on te fait confiance. Et on va juste garder une atmosphère d'adoration. Et les gens disaient, mais vous allez où? Vous allez où? Vous êtes... Écoute, c'est quoi? Dieu nous a dit d'aller là-bas. On est convaincus par plusieurs, par A, plus B, C, D, voilà. Conviction que Dieu nous appelle là. Maintenant, il n'y a rien qui se passe, mais on garde une attitude d'adoration. On loue Dieu, on remercie Seigneur, on verra qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, on est rapproché du deadline, deadline. Et puis les gens disaient, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je dis, tu sais quoi? La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Je dis, Dieu nous a bénis. Et puis là, la bénédiction va arriver. Et puis du coup, quelqu'un me dit, bah, écoute, t'as appelé telle personne et tout, c'est une agence immobilière. Et puis la femme, elle est chrétienne, tu devrais l'appeler et tout. Donc, je dis, ok, je l'appelle. Puis je l'appelle, j'ai écouté, je cherche une maison, j'aimerais avoir 4 chambres sur Montpellier, proche de l'église clé, vous êtes chrétienne, donc voyez où ça se trouve, ouais. Voilà, avec un jardin, une maison. Et là, elle me dit, Alléluia, Alléluia! Je suis une agence immobilière là ou... Elle dit, écoutez, ça fait depuis février, donc ça faisait quand même presque un an, quoi, que je veux louer cette maison, une maison, mais que Dieu m'a dit, convaincu aussi dans la prière, que Dieu m'a dit, non, tu ne loues pas cette maison, tu attends, un couple chrétien va t'appeler et ils auront besoin de cette maison avec 4 chambres proches de tel endroit. Et je dis, bah, écoutez, bah, à mon avis, ça va être nous, hein, on a besoin d'un jardin, vous avez un jardin? Ouais, il y a un jardin. Mais écoutez, je dis, écoutez, par contre, tu n'as pas vu la maison, tu vois, mais je dis, mais je suis convaincu dans mon cœur que c'était celle-là. Je dis, écoutez, par contre, ok, il n'y a pas de souci, j'ai paix dans mon cœur, je n'ai pas vu la maison, mais par contre, au niveau des finances et tout, il faudrait qu'on voit. Parce que ma femme... Je dis, vous inquiétez pas, je regarde même pas votre dossier, je vous donne les clés, c'est bon. Ah, c'était bon. Et donc, vous voyez, on est arrivé, puis on a visité avec Marion. Marion n'était pas trop, parce que la maison est un peu petite, elle doit faire 95 mètres carrés, je pense, à peu près. Sauf que la maison qu'on voulait acheter faisait 175 mètres carrés. Vous voyez un peu le. Donc, du coup, elle s'est retrouvée dans une maison, on dit, oh, c'est trop petit, c'est trop petit. Marion n'aimait pas du tout la salle de bain. Elle dit, ah, Jérémy, non, je peux pas, je peux pas. Donc, elle a dit à l'agence immobilière, écoutez, par contre, la salle de bain, elle a dit, écoutez, vous inquiétez pas, j'ai compris que vous ne l'aimiez pas, j'ai appelé le propriétaire. Il a dit, faites un devis, et puis il paye. Pas de souci, c'est bon. Et là, on s'est dit, waouh, la bénédiction de Dieu. Et du coup, on y est, hein, on y est. Et puis tout ça pour dire que, vous voyez, je crois que parce qu'on a été dans une atmosphère d'adoration, quelque chose s'est passé. On a gardé ce cœur de dire, Seigneur, on croit en tes promesses, il y a quelque chose qui va se passer. C'était difficile, on s'est dit, où est-ce qu'on va se retrouver? On avait appelé des gens en disant, écoute, est-ce que tu peux nous loger pour un mois? Ça va être compliqué, on trouve rien. Mais l'attitude, l'atmosphère qu'on a dégagée a permis Dieu d'agir. Et ce qu'on ne savait pas à un moment donné, quand on est parti visiter, c'est que dans le jardin, il y a une grande piscine. Et la personne dit, ah, par contre, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est payant la piscine, mais pour l'entretien, mais allez, on vous fait cadeau aussi, c'est bon. Donc, du coup, on a été vraiment bénis. Donc, c'est pour vous, d'accord? Donc, cet été, vous allez pouvoir venir, barbecue, piscine, ça va être sympa, parce que c'est pour vous qu'on a prié. Mais tout ça pour dire l'attitude, pour revenir au message, quand tu vis quelque chose, la première des choses que tu dois veiller, c'est quelle est l'atmosphère que tu dégages. Parce que, encore une fois, la foi victorieuse se nourrit d'une atmosphère de calme, d'adoration, de confiance. Deuxième point, et je vais finir avec celui-là. Mon deuxième point va être plus court, beaucoup plus court, mais tellement important. Écoutez bien, une atmosphère d'adoration calme, de confiance, impacte aussi les personnes autour de toi. Je relis le verset, écoutez-moi. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée à la se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » En fait, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que quand Paul ici là s'était en prison, il ne voyait même pas ce qui se passait à gauche ni ce qui se passait à droite, parce que la Bible dit que le geôlier est arrivé avec une lumière, il s'est précipité pour regarder ce qui se passait. On ne voyait rien. Quand on regarde les prisons romaines à l'époque, c'était une prison creusée grossièrement dans la roque. C'était quand même assez hard. Mais quand ils ont développé cette atmosphère, la Bible dit, et les prisonniers l'écoutaient, les écoutaient. Et quand Dieu est intervenu dans la vie de Paul et Silas pour que leurs chaînes soient brisées et que la porte de la prison, de leur prison s'ouvre, la Bible dit que aussi la porte des autres prisonniers se sont mises à s'ouvrir. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce qu'on vient de lire. Et l'apôtre Paul dira, ne te tue pas, geôlier. On est tous ici. On n'est pas sortis. Mon point est celui-ci. L'atmosphère que tu dégages va aussi contaminer les autres, positivement ou négativement. Et tu peux des fois être dans une atmosphère tellement de foi, tellement de calme et de confiance que les gens autour de toi peuvent en bénéficier. Et il y a des gens que tu vas croiser, de tes amis, de ta famille, qui sont comme dans des prisons. Et le fait que tu leur apportes ton atmosphère, cela va leur permettre de sortir de leur prison, croyez-moi. Ça n'a pas fait sortir le prisonnier de sa prison. Je m'éloigne du texte, c'est un peu, excusez-moi le terme, un peu prophétique là, ce que je dis, mais ça n'a pas empêché le prisonnier de sortir de prison, mais ça a ouvert la porte au prisonnier. Et c'était à lui une démarche de le faire. Mais tu peux croiser du monde autour de toi, et parce que tu dégages une atmosphère de calme, de confiance, en tout temps, dans les moments de difficulté, que les gens vont être impactés. Les gens vont vivre des choses autour de toi et tu seras une réelle bénédiction autour de toi. Les gens vont venir te voir en disant « Prie pour moi, écoute, aide-moi, écoute » parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est à côté de toi. Quand ils vont se rapprocher de toi, ils vont recevoir quelque chose. Et c'est spirituel cette affaire. C'est vraiment spirituel. Tu peux communiquer ton atmosphère. Comme il y a des gens où tu stresses et que tu sais que tu ne dois pas aller voir certaines personnes parce qu'ils vont te montrer que tu devrais stresser encore plus et que tu vas paniquer encore plus. Ça, on arrive à comprendre, d'accord? Mais il y a des gens avec lesquels tu sais que tu peux parler et l'atmosphère qui va dégager, il aura comme une vision, comme si tu étais dans un brouillard. Et lui dit, attends, mais non, moi, je ne vois pas le brouillard. Il y a là, va tout droit. Puis pff, comme si la chose était claire, quoi. Il dit, merci. Mais tu vois, vous voyez ce genre de personnes qui dégage ce genre d'atmosphère, on peut dégager cette atmosphère-là. Mon point est celui-ci. La première des choses que tu dois faire dans ta vie chrétienne, pour ce premier message sur l'atmosphère, c'est veille constamment à l'atmosphère que tu dégages dans chaque situation de ta vie. Tu seras une bénédiction pour ta propre vie et pour les gens qui sont autour de toi. Et une fois que tu auras maîtrisé cela, une fois que tu auras grandi avec ça, tu verras que tu ne poseras plus la question de savoir comment je dois prier, qu'est-ce que je dois dire, et puis pourquoi les choses n'arrivent pas. Toutes sortes de questions qu'on pense qu'il faut prier d'une certaine manière, ou on pense qu'on doit faire ceci, doit faire cela. Vous verrez que parce que vous développez une atmosphère, comme on vient d'en parler, d'adoration, de confiance, de calme, les choses vont se passer. Et après, vous allez tellement être dans cette atmosphère-là que vous allez bénir les autres autour de vous. Et vous allez voir les gens sortir de leur prison. Les gens venir vous voir dans une prison mentale. Les gens vont venir vous voir et tu vas écouter sa situation. Tu vas voir que sa situation est impossible. Mais tu auras compris que spirituellement, parce que tu gardes une atmosphère d'adoration, quelque chose va venir ébranler dans ses pensées. Il y a quelque chose qui va se passer et elle va sortir de cette situation. C'est spirituel, cette affaire, mais c'est tellement précieux, tellement bon. Demander, mais tu peux venir jouer un petit peu juste. Le but, c'est de mon message, c'est vraiment de vous aider. mon message a été court, mon message a été fait court. Ça va? Mais j'aimerais vraiment, par ce message, que vous puissiez comprendre ces clés-là. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est j'espère que... Est-ce que ça vous a servi, ce message? Est-ce que vous avez compris certaines choses? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez l'appliquer dans vos vies chrétiennes? Développez cela. Première des choses, qu'est-ce que je dégage? Veillez sur votre cœur. La Bible dit que parle tellement de cœur. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Là où est ton trésor, là aussi. Toutes sortes de choses qui parlent du cœur, qui parlent de l'atmosphère. Vous savez, il y a même une fois où, dans la Bible, Jésus, et vous lirez peut-être des fois même les évangiles des fois différemment dans ce qui se passe. À un moment donné, Jésus veut faire un miracle. Excusez-moi, mais je ne m'en souviens plus trop du texte. Je crois que c'est un enfant. Et les gens pleurent. Et c'est là, les gens disent, oh, il est mort. Puis des fois, il y a Jésus qui prend autorité. Mais il y a une fois, à un moment donné, il vire tout le monde. Il sortait. Et Jésus fait le miracle. Il y a des fois où il y a des gens qui viennent plomber l'atmosphère. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle à Capernaum parce que les gens manquaient de foi. Et du coup, il y a le surnaturel n'a pas pu prendre place. Si tu veux vivre plus de choses, cultive une atmosphère autour de toi. Qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu dégages la colère? Est-ce que tu dégages la peur? Est-ce que tu dégages... Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce qu'on sent quand on s'approche de toi? Si on te presse comme ça, là, qu'est-ce qui sort? Donc comprenez une chose, je sais que je me répète parce que je veux tellement que vous compreniez, que vous le captiez. La foi victorieuse, le surnaturel de Dieu, si tu veux que Dieu intervienne puissamment dans ta vie, il faut que tu lui donnes une lampe, comme un tapis rouge. Il faut que tu mettes un tapis rouge pour qu'il vienne. Et le tapis rouge, c'est l'atmosphère que tu crées autour de toi. Et je vais juste prier pour tout le monde. Alors que tout le monde a les yeux fermés, je vais faire deux appels très simples. Puis si ensuite vous voulez qu'on prie pour vous individuellement à la fin de la réunion, vous venez nous voir. Puis on priera pour vous. Mais mon premier appel est très simple. Pour ceux et celles qui vivent dans une prison mentale, et que les fondations sont tellement solides que vous ne voyez même pas comment faire pour sortir de cette prison. La prison peut être tellement différente les unes pour les autres. Mais tu connais ta prison. Et Jésus aimerait venir ébranler cette prison-là. Les fondations de cette prison et te faire sortir de là pour que tu puisses vivre la vraie liberté. Pas la liberté que le monde propose. Tu deviens plus esclave qu'autre chose. Mais la vraie liberté. Et l'appel est très simple. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, qui disent, mais moi j'aimerais que Jésus intervienne dans ma vie. Que quelque chose se passe dans ma vie. Qu'il puisse intervenir dans ce domaine-là. Qu'il me fasse sortir de là. La seule chose que Jésus attend, c'est ton go. Et si c'est le cas, si tu veux inviter Jésus dans ta vie en disant, viens, change ma vie. Je veux vivre une vraie liberté. Je vais juste te demander, alors que les yeux sont fermés, juste de lever ta main, doucement. Ok. Je vois ta main. Ok. Deux mains. Cool. Ok. Parfait. Je vais prier pour vous. Et puis je vais ensuite faire le deuxième appel. Seigneur, je prie pour ces deux mains qui sont levées. Aujourd'hui est un jour nouveau. Esprit de Dieu. Je te prie de venir dans leur cœur. Jésus, je prie maintenant à ce que tu puisses faire ta demeure en elles et que tu, Esprit de Dieu, que tu parles à leur esprit et que tu leur montres maintenant dans leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Que tu interviennes puissamment maintenant dans leur situation, dans leur prison, dans leurs difficultés. Viens agir puissamment dans le nom de Jésus. Je vous encourage, pour les deux mains qui se sont levées, de venir nous voir à la fin, on passera un temps avec vous. Le deuxième appel est très simple, pour ceux et celles qui disent, mais moi j'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides à créer cette atmosphère. Et la prière que je vais faire pour vous, ce n'est pas une prière magique, mais juste dire à Dieu de vous rappeler à chaque instant ce message, à chaque instant veiller à l'atmosphère que vous dégagez. Et il y a quelque chose qui me passe par l'esprit aussi, j'aimerais vous dire, vous savez, souvent on dégage... une odeur, une atmosphère, des choses avec lesquelles nous nous sommes nourris spirituellement et même émotionnellement. Qu'est-ce que tu écoutes? Ça va être un peu conservateur, j'allais dire, mais qu'est-ce que tu écoutes? Que ce soit les conversations, que ce soit même les musiques, qu'est-ce que tu regardes? À la télé, les séries, tout ça. Toutes ces choses viennent te nourrir, viennent nourrir ton âme. Et ça a un impact, que tu le veuilles ou pas, sur l'atmosphère que tu dégages. Et j'aimerais prier pour toi si tu dis, Seigneur, je veux apprendre à développer une atmosphère de calme et de confiance. Et si c'est ton cas, juste lève ta main tranquillement, puis je vois tes mains, au moins je vais prier pour toi. Ok. Parfait. Seigneur, je prie pour toutes ces mains. On veut venir devant toi d'un même cœur, d'une même voix, de dire, Seigneur, on veut apprendre à développer une atmosphère de calme et de confiance. Et pour cela, Seigneur, parle-nous. Montre-nous dans ta parole toutes tes promesses que tu nous fais. Et on veut s'accrocher à ces promesses, pas à ce que l'œil humain voit, mais à ce que Dieu voit. Tu changes les temps et les circonstances, Seigneur. Tu changes les temps et les circonstances. Tu dis de ne pas nous inquiéter, que tu veilleras sur nous. Tous les jours de notre vie, tu seras avec nous, tu dis dans ta parole. Et Seigneur, toutes ces promesses, nous voulons les croire plus que ce que nos yeux voient. Et nous voulons cultiver une atmosphère dans laquelle tu peux agir. Seigneur, je prie pour chacune de ces mains. Je prie, Seigneur, est-ce que dans les jours qui suivent, quelque chose se passe, qu'ils puissent comprendre ce message et que ce ne soit pas juste quelque chose qui vienne toucher leurs émotions, mais qui vienne toucher leur esprit, qu'ils puissent comprendre l'atmosphère, qu'ils puissent comprendre ces choses. Et que dans les jours qui suivent, il y ait comme des déblocages, que les prisons, Seigneur, de plusieurs, maintenant de chacun, puissent être ébranlées, que les portes s'ouvrent, que les possibilités s'ouvrent, que le surnaturel de Dieu puisse prendre place maintenant dans le nom de Jésus. Souvent, Seigneur, nous prions pour que le surnaturel prenne place, alors que tout ce que toi, Seigneur, tu attends, c'est qu'on prépare le terrain pour que le surnaturel prenne place. Alors, aide-nous à préparer les cœurs, aide-nous à préparer notre atmosphère, à préparer le tapis rouge pour que ensuite, Seigneur, tu puisses agir puissamment dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.